les philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi ? Religion.
Là, c'est on a retourné le problème
faire
en fait.
À l'extérieur de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, on a le droit de retourner.
C'est une parole,
c'est ça.
C'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société.
Crise des représentations,
des institutions
et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible. D'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer.
De discuter et concevoir, de porter voix et témoigner. De tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophe public.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission des philosophes publics sur Radio Grenouille, avec aujourd'hui Céline. Salut Céline.
Bon salut.
Samy.
Salut Mathias.
Louisa.
Salut.
Et Denis.
Bonjour.
On est très content aujourd'hui de pouvoir vous parler d'un événement qui a eu lieu, un festival dans lequel le collectif des philosophes publics était invité. Ce festival, c'est Parole d'Arbre. Alors Parole d'Arbre, ça se passe tous les ans du côté de Beaunieu, Arbory plus particulièrement, cet endroit magnifique et si intéressant tenu par Jeff et Blandine. Ça a eu lieu le 6 et le 7 octobre et on était là-bas pour essayer d'imaginer une balade, une déambulation philosophique autour de l'habité. Alors à la fois marcher et penser, marcher, se poser et puis après parler tous ensemble. Alors justement, tous ensemble, on avait imaginé avec les comparses aller faire une promenade, partir du lieu des arboris et puis se retrouver dans la nature en différents endroits. Commencer par non pas planter un drapeau, mais poser un texte, le lire et voir comment est-ce qu'il résonnait avec le lieu lui-même. Alors, c'est parti. On est parti de la maison, et de cette maison qui ne cesse d'être retapée. On a franchi le portail et on s'est retrouvé à prendre un petit chemin, à cheminer, jusqu'au premier point, un peu en hauteur, ce premier point, où on a pu apercevoir une vallée un peu plus loin par une trouée de la garrigue et poser un premier texte. Et ce premier texte, c'est Céline qui va vous le lire et puis après on va en parler tous ensemble.
J'ai pas fait le choix de vous le lire en entier parce qu'on va essayer d'être un petit peu rapide, mais plutôt de vous lire des petits passages et d'en parler à partir de ces petits passages. Donc effectivement, comme l'a dit Mathias, on a pris un chemin qui est en fait très recouvert, très touffu, avec des arbres un peu étroits. Et c'est assez surprenant d'arriver tout à coup sur une esplanade qui fait place effectivement à une vision très large. Il y a comme un tapis de feuilles, des grands arbres, sur la gauche une cabane. Une cabane toute simple avec une baie vitrée. Et donc, il y a un effet de surprise par rapport à ce quoi on pourrait s'attendre. Donc, le texte de Heidegger on nous pousse, ou je ne sais pas, nous invite à écouter les arbres, à écouter l'espace. Et en tout cas, l'extrait qu'on a choisi s'ouvre sur le jeu des enfants. Hein, donc, je vous lis vite ce passage. « Cependant, dans l'écorce du chêne, les gamins découpaient leur bateau, qui muni d'un banc de rameurs et d'un gouvernail flottait sur la rivière Mettenbar, ou dans le bassin de l'école. » On est donc dans un autre univers, puisqu'il n'y a pas d'eau. Hein. Enfin, là, Heidegger fait référence à l'eau, là, il n'y en a pas, à Arbory. Mais en tout cas, il y a bien ces écorces, ces feuilles qui font place à un autre rapport qu'un rapport d'utilité ou d'occupation classique de l'espace, mais à un rapport de jeu, de découper dans les matériaux. La matière se fait être, la matière se fait désir. Et voilà, c'est ce que Heidegger suggère un petit peu. Ensuite, il a cette phrase là qui résonne bien avec l'idée même d'Arbory, puisque tout à coup, ce sont les arbres qui parlent et qui nous communiquent ou qui nous donne à entendre ce que c'est que croître. Et donc croître signifie, je cite, « s'ouvrir à l'immensité du ciel, mais aussi pousser des racines dans l'obscurité de la terre ». Hein, donc croître, ce serait un double mouvement vers le haut et vers le bas. Et il me semble que quand on s'installe dans ces paysages voilà, à peine transformés par l'homme, ouverts sur l'infini, avec la belle maison d'arborie pas très loin, il y a quelque chose qui effectivement nous enracine dans un sol qui n'est peut-être pas notre sol habituel. On a envie de changer nos habitudes, on a envie d'y rester. Et donc, pour vous communiquer comment ça s'est passé, c'était la première lecture, il y avait encore toute notre timidité qui se logeait entre les uns les autres. Qu'est-ce que prendre la parole? Qu'est-ce que... Voilà, on se cherchait peut-être un peu, mais il me semblait qu'on était ensemble dans la contemplation. Et Heidegger aussi montre bien qu'avoir un rapport à l'espace, c'est pas simplement un rapport de contemplation esthétique, c'est aussi un rapport d'habitation. Et celui qui habite immédiatement, c'est l'enfant qui se love, qui se loge, qui invente des espaces, un petit peu comme Arborie lui-même, ou comme l'a dit Mathias en début, c'est donc un lieu près de Beaunieu, où ceux qui habitent ce lieu et qui offrent l'hospitalité, enfin après c'est un lieu où on peut louer des chambres, est tout le temps dans cette invention. Donc on est dans quelque chose de dynamique. Voilà, je laisse la parole au prochain texte.
Et après avoir contemplé les monts de Vaucluse avec en horizon le mont Ventoux qui était un petit peu dans la brume ce jour-là, on a repris le chemin en sens inverse, on est redescendu dans les taillis, et là on est tombé sur un arbre qu'on avait laissé sur notre gauche en montant, qu'on n'avait pas très bien aperçu, et qu'on a aperçu sur toute la hauteur, un chêne blanc sur lequel est construite une magnifique cabane, donc une cabane dans les arbres comme on peut en rêver. Ce qui nous a frappé d'abord, bien sûr, c'est, alors il y a le côté bricolage, mais il y a aussi quelque chose qui relevait de la précarité. Et c'est ce qui nous a, dans la construction de la promenade, ce qui nous a fait associer cette idée à l'idée du nid, puisque aussi le nid se trouve dans les arbres. Et on est parti à ce moment-là d'un texte de Bachelard qui évoque justement comment le nid est précaire, et cependant il déclenche en nous une rêverie de la sécurité. Donc c'est ce paradoxe d'une précarité du nid, et en même temps de la sécurité qu'on y trouve ou qu'on peut y trouver. Et je continue juste le texte un petit peu. En contemplant le nid, nous sommes à l'origine d'une confiance au monde. Nous recevons une amorce de confiance, un appel à la confiance cosmique. Notre maison, saisie en sa puissance onirique, est un nid dans le monde. Nous y vivons dans une confiance native, si vraiment nous participons en nos rêves à la sécurité de la première demeure. Donc ici, on avait l'idée finalement de partir sur ce que le nid évoquait pour nous, ce en quoi il faisait rêver en nous, et en quoi il pouvait évoquer finalement aussi des imaginaires différents. On a beaucoup tourné quand même dans la discussion autour d'un espace primitif, se dessine ou s'ouvre autour du corps, puisque finalement quand les oiseaux font le nid, c'est finalement presque le corps qui circonscrit cet espace, qui est à la fois qui se construit autour du corps lui-même et qui le préserve de l'extérieur, mais en même temps cette préservation de l'extérieur n'est pas une sécurité, on va dire, comme si on construisait des murs ou quelque chose de... Hein, puisqu'il y a cette précarité, ces brindilles, cette aération hein, aussi du nid. Mais c'est plutôt une sécurité qui vient de la confiance qu'on accorde, finalement, au monde et à l'existence dans le monde. Donc c'est cette mise en rapport, finalement, de soi au monde, ou le fait de trouver un coin aussi. Dans les textes de Bachelard, il y a beaucoup de rêveries autour du coin, de ce lieu que l'on est, de ce lieu primitif en ce sens où c'est à partir de lui justement que l'on peut initier et penser un rapport au monde. Et donc après on a cheminé vers une autre petite maison un petit peu plus loin, Louisa.
Oui, donc on a continué le chemin, on est descendu encore un petit peu, puis on a pris le chemin de terre qui est le plus solide, on va dire, celui par où on arrive à la maison. On l'a pris en sens inverse. On voyait pas trop où on allait puisqu'il y avait des talus, des haies qui empêchaient de voir ce qui se passait derrière. Et donc c'était un peu inattendu. Puis à un moment donné, ça s'ouvre vers un champ assez vaste, mais où se trouve on peut appeler ça une cabane, mais en fait c'est une chambre avec un toit, une chambre avec un lit conjugal à l'intérieur. Ce qui est commun à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, le côté primitif, le côté premier, puisqu'on a vu avec Céline le côté des jeux d'enfants, le premier rapport au monde qui est celui de l'enfant, on voit ensuite celui du nid. Et là, on avait encore cette idée de quelque chose de primitif et de premier qui rappelait encore aussi les jeux d'enfants, puisque moi, ça m'a fait penser à... Enfin, je me suis dit, quand j'ai vu ça, si j'avais vu ça quand j'étais petite, j'aurais adoré jouer dans cet endroit. Et puis ça fait penser aussi cet endroit aux cabanes qu'on voit dans les films de Charlot où il s'installe avec sa bien-aimée dans un abri de fortune mais qui devient sa maison hein, où il s'installe, etc. Donc ce texte, ce lieu, moi j'ai choisi de le mettre en rapport avec un texte de Rousseau. Extrait du discours sur l'origine des fondements de l'inégalité parmi les hommes, où on voit justement le premier habitat, où il décrit, hein, où il imagine ce qu'aurait été la première forme d'habitation dans les tout débuts de la société. Donc je lis juste un petit extrait de ce texte. Plus l'esprit s'éclairait et plus l'industrie se perfectionna, bientôt cessant de s'endormir sous le premier arbre ou de se retirer dans des cavernes, on trouva quelques sortes de haches de pierres dures et tranchantes qui servirent à couper du bois, creuser la terre et faire des huttes de branchages, qu'on s'avisa ensuite d'enduire d'argile et de boue. Ce fut là l'époque d'une première révolution qui forma l'établissement et la distinction des familles et qui introduisit une sorte de propriété. Alors, ce qui était intéressant donc dans le rapport avec ce texte, c'est que on voyait comment dans un point de vue qui n'est pas un point de vue d'historien, hein, puisqu'il raconte pas réellement la préhistoire comme un historien, mais c'est qu'il y a un point de vue de philosophe sur ce qu'auraient pu être les débuts de l'histoire humaine et qui montre comment ce qui anthropologiquement caractérise vraiment la vie humaine peut se penser dans un rapport au temps, dans un rapport à l'histoire, où il y a des choses qui s'établissent de manière, d'une certaine manière, due à la contingence et au hasard, mais qui deviennent ensuite une forme de nécessité qui s'inscrit dans la civilisation et qui crée une civilisation. Et ce qui montre là, c'est une époque qu'on peut appeler l'époque des cabanes. C'est pour ça que je l'avais choisi, parce que ça fait penser donc à l'idée de cabane. Et cette époque des cabanes, c'est une époque où les hommes ne sont pas encore déterminés par le rapport à la propriété privée, et que pourtant ils habitent des maisons qui leur appartiennent. Donc c'est ce paradoxe qui est intéressant. Les maisons leur appartiennent, mais ce ne sont pas à proprement parler des propriétés, puisque la propriété va apparaître lorsqu'il y aura la propriété de la terre. Et là, il n'y a pas encore de propriété de la terre. Et du coup, l'habitation et le rapport à la maison qui appartient aux familles n'introduit pas un rapport d'inégalité, de violence, et tout ce qui va être ensuite déterminé par le rapport à la propriété. Et donc, on le voit dans le texte, l'idée de quelque chose qui crée des liens familiaux. Il parle de l'habitude de vivre ensemble qui fait naître les plus doux sentiments qui soient connus des hommes, l'amour conjugal et l'amour paternel. Donc on voit le lien entre habiter et créer des habitudes et créer des liens. qui introduisent une certaine séparation du travail, la création d'une forme de division sexuelle du travail qui va être établie puisque les hommes vont plutôt aller vers la chasse et les femmes vont plutôt, imagine Rousseau, donc s'occuper plus de la maison. Mais c'est pas dû à la nature, c'est ça qui est intéressant, c'est que habiter montre, le fait d'habiter montre que l'homme, que ce qui fait anthropologiquement l'homme, ce n'est pas à proprement la nature, mais c'est des situations, puisque habiter c'est une situation. À un moment donné, les hommes se sont mis à habiter ensemble et ça a créé une certaine division du travail, ça a créé des liens familiaux qui n'existaient pas avant, c'était pas naturel, les liens familiaux sont pas naturels, ils sont la conséquence du fait d'habiter ensemble. Donc c'est ça qui est intéressant. Et bon, on a fait le lien entre ce texte et un petit extrait d'une chanson, d'un poème de Prévert qui est chanté par Yves Montand, qui est très joli, et qui dit « Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements. » Et tu resteras immobile, nu, debout, avec ta bouche rouge, comme les piments rouges, pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison, qui n'est pas ma maison, tu viendras. Et ce qui nous a plu, c'est que c'est une maison qui n'est pas ma maison, justement. On voit que la maison, c'est le lieu où on habite, mais ce n'est pas encore la propriété qui me distingue des autres.
Alors justement, ensuite, après ce vers de ces vers de Prévert, on a essayé de comprendre l'habité, justement, notamment dans la question poétique, chez Bachelard, mais aussi chez Heidegger, on habite le monde en poète. Et on est allé justement dans un petit endroit où se passent les jeux des enfants. Et on s'est assis là et j'ai choisi moi un petit texte de Jean-Marc Besse, qui est un philosophe, historien, qui enseigne à l'école du paysage, qui parle du bricolage. Et cette manière que nous avons d'habiter, souvent, pourrait se résumer dans cette manière que nous avons de bricoler. Nous bricolons évidemment notre appartement, notre maison, mais nous bricolons aussi nos vies. Et cette précarité finalement de l'habitat se retrouve dans notre précarité à exister. Jean-Marc Besse reprend une petite phrase de Lévi-Strauss qui dit que le bricoleur c'est celui qui s'arrange avec les moyens du bord, en fait. Et finalement, dans cet espace, alors on a essayé de comprendre l'espace, là, dans cet espace, justement, Jeff et Blandine ont justement bricolé cet espace, mais qui donne à rêver aux enfants et qui parle de la manière dont nous rêvons, nous, le monde, et comment nous rêvons même notre maison, notre habitat. Je vous lis juste un petit passage de Jean-Marc Besse que j'ai trouvé très joli. Il faut surtout retenir ceci, c'est que le bricoleur est celui qui se laisse solliciter par les significations et les usages possibles qu'il trouve dans les objets et les matériaux. Pour le bricoleur, l'espace qui l'entoure et ce qu'il contient ne sont pas neutres et d'une différence homogène, couvert de traces et de signes. L'environnement a un visage, des reliefs et des plis. Une physionomie porteuse de sens et de valeur. Bref, il est pour récupérer à la manière du glaneur, décrit par Agnès Varda. Et j'ai trouvé que cet endroit, il donne à voir justement comment on aménage nos espaces et comment on crée des espacements entre nous. D'ailleurs, il y avait un deuxième petit texte aussi que je voulais lire de Jean-Marc Besse qui allait dans ce sens. Comment justement, non seulement... faire de l'espace, aménager un espace, c'est ménager, c'est se ménager nous-mêmes, nous ménager entre nous, trouver la juste distance qui doit créer les relations. Et écoutez ce petit passage qui je trouve très parlant. L'espace qui me sépare de l'autre est d'abord béance, chaos, faille indéfinie, ouverte comme une blessure inguérissable. Rendre l'espace habitable pour y créer, si peu que ce soit, si fragile que cela puisse être, quelque chose comme un nous. Et on s'intéresse souvent si peu à ces pratiques dites besogneuses que sont le ménage, le bricolage, et qui pourtant, je crois, parlent essentiellement de notre condition au monde, de manière d'être au monde, c'est-à-dire justement, faire de l'espace pour l'autre. Et je crois que ça nous rappelle aussi que habiter dans sa condition existentielle est essentiel, et je crois qu'on peut comprendre bien souvent la douleur que de ceux qui n'habitent pas, que ceux qui n'ont rien pour habiter. Et cette dimension existentielle, je crois, cette manière qu'on a d'être au monde, je crois, doit être mesurée dans sa grandeur.
Et c'était à ce moment-là aussi l'heure de rentrer, de sortir de cette cour qui est comme un petit bout de nature à l'intérieur de cette maison-là des Arboris. Alors on est ressorti pour regarder la maison en face et lire un dernier petit bout de texte. Alors comme c'est bientôt l'heure aussi pour notre émission, je vous en lis juste la fin. Et cette fin dit « Nous sommes ici et là ». Et c'est dans l'ensemble de nos parcours, entre nos ici et nos là, qu'au bout du compte, nous aurons habité. Voilà pour un petit moment passé avec vous. Alors n'hésitez pas à nous demander les textes tout bientôt. Voilà, ou alors à venir un de ces quatre avec nous aussi à Arbory du côté de Beaugneux chez Blandine et Jeff. Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Les philosophes publics.
Là c'est on a retourné le problème en fait, en effet.
Là, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
C'est quoi ce faut-il là? Est-ce que...
C'est circuler une parole,
c'est ça.
C'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose de mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Ce collectif a décidé d'aller partout
où le dialogue est possible. D'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer.
De discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook
et sur le site de Radio Grenouille.